discernement, pas un temps catastrophique seulement, un temps de discernement pour essayer de voir comment, à l'intérieur même de la création, en parlant de la création plus que de la nature, l'homme est appelé à entrer, plusieurs mondes étaient prononcés, celui de partenariat ou bien celui de alliance. Vivre simplement pour vivre bien, le deuxième aspect, pour vivre bien. La vie bonne, avons-nous entendu. Pour vivre bien ensemble, voilà les deux aspects. De toute façon, on entend bien qu'il y a comme un impératif qui peu à peu s'installe et s'impose à nous. Vivre bien. Un impératif. Un peu comme à la première page de la Bible, il y a en germe ce même dispositif qui est de tous les fruits que vous pouvez manger, de tous les fruits que vous pouvez manger, tout vous est autorisé, tout peut être consommé, on va tout produire, le progrès infini, tout régler, vous pouvez manger de tous les fruits sans faire. Et donc cet impératif qui est inscrit dans la première page, aujourd'hui, reste à actualiser. Donc il y a peut-être un jeu entre le possible et l'homme. Il lui semble à lui que rien ne peut être possible. Et puis, le souhaiter, le souhaitable, le bon vivre, une vie bonne, vivre bien. Alors, pour en débattre cet après-midi, et pour entrer plus dans des manières, bien que nous avons demandé à trois personnes de se faire l'écho de ce thème. Alors, il y aura trois personnes que je vais présenter maintenant, mais l'une par réflexion personnelle et démarche personnelle dans sa vie, dans la vie, même si c'est avec d'autres. Quelqu'un d'autre qui le fera au nom de son engagement dans une association d'association, et puis une troisième personne au nom d'une communauté religieuse. Alors, je vais demander donc à Edilosa, Iman et ma sœur Anna, au nom de la communauté. Voilà. Alors, vivre sans commande, c'est-à-dire aussi pour cet après-midi, j'aurais demandé un exercice possible, c'est de restreindre le temps de parole en 5 minutes, en pensant bien qu'ils vont rester à table, tout à l'heure, et ils vont prendre place à côté des personnes qui s'appellent, et de temps en temps, ils pourront intervenir pour répondre à la question. Autrement dit, j'aurais simplement de faire une annonce de thème en 5 minutes. Alors, je ne sais pas par qui commencer, on va commencer par ordre de ceci. Je vois qu'il y a Iban en premier. Donc Iban, qui est de la région de Mayotte, de Bayonne, en l'état de la Basse. Et Iban, qui va nous dire comment réagit ce thème, comment il entend ce thème, quelles sont ses réflexions, quelles sont ses mises en œuvre, peut-être dans sa vie, et les limites que forcément ce thème a.
Merci. On m'a demandé de faire très court. Michel m'a dit, tu fais comme si c'était un apéritif. Comme ça vient après le repas, je vous propose un petit digestif, simplement pour bien commencer la digestion. Il y a une chose qui est quand même importante, moi. Alors, vous pardonnerez parce que mon propos d'aujourd'hui, il tient sur une petite page, donc ça devrait être assez court. Ouais, il y a une chose qui me paraît importante dans le thème qui est abordé aujourd'hui sur la sobriété et qu'il est important, me semble-t-il, d'avoir en tête, c'est que pour les 6 milliards d'êtres humains qui peuplent cette terre, pour plus des deux tiers, la sobriété, c'est une question qui ne se pose même pas. D'ailleurs, la plupart des habitants de la terre n'ont pas ce souci-là en tête, n'ont pas le souci de savoir est-ce qu'ils ont un impact fort sur la terre. Impact qu'il devrait minorer. Donc ce souci-là, il se pose essentiellement à nous qui vivons dans des société de surconsommation à nous qui vivons dans des pays fortement industrialisés où la consommation a longtemps été considérée comme le salut à atteindre et qui, des sociétés où encore aujourd'hui, si on entend, excusez-moi de faire un petit peu d'actualité, mais si on entend aujourd'hui ce qui se passe dans les campagnes électorales, sans croissance, il ne se passe rien, il ne se passerait rien. Or, penser ça, c'est continuer à courir à toute allure vers un mur qui se dresse droit devant nous et vers lequel on va finir par s'écraser. Pourquoi ? Il faut bien avoir à l'esprit que la plus grande force de la nature aujourd'hui, c'est la femme et c'est l'homme, aujourd'hui. On est en train de complètement chambouler la Terre. Je ne sais pas, là, il y a un petit livre « Enjeux et défis écologiques pour l'avenir ». Je ne sais pas si ce matin a été évoquée la question du réchauffement climatique, on pourra y revenir. Mais on est en train de chambouler complètement la Terre et on est en train de faire que la Terre qui sera cédée à nos enfants qui vivent déjà aujourd'hui, à nos petits-enfants et petits-enfants, risque d'aller vers on risque d'aller vers une Terre sur laquelle la vie ne sera plus possible. Ben, il faut ça l'avoir bien en tête. Premier point, donc c'est cet aspect un peu où l'homme et la femme ont pris le pouvoir sur la nature, et donc il y a urgence à agir et à réduire notre impact sur la nature. Autre élément de réflexion, c'est la question de la répartition des richesses. Aujourd'hui sur la planète, pour faire simple, hein, on a à peu près 20% de l'humanité qui s'accapare 80% des richesses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous avez partagé votre repas aujourd'hui, si l'une ou l'un d'entre vous avait autour de la nappe sur le sol 4 invités, 5 avec lui, qu'il sort un gâteau, qu'il le partage, ça veut dire qu'il fait 5 parts de ce gâteau, il ou elle se mange 4 parts et il laisse la 5e pour les 4 autres. Aujourd'hui, sur Terre, la répartition des richesses, c'est ça. Donc il y a non seulement une nécessité de revoir ce partage des richesses, mais comme, premier point, on sait qu'on ne pourra pas être dans le toujours plus, il va falloir revoir la recette. Voilà, en guise d'introduction, alors comment ça résonne moi à titre personnel ? D'abord ça résonne à titre personnel dans ma vie, moi je suis marié et père de 3 enfants, donc ça demande une attention du quotidien pour être le plus sobre possible dans ses consommations, même si à titre personnel j'ai eu la conviction que je suis bien trop consommateur au regard de ce que mon impact sur la planète devrait me permettre. Et à titre collectif, je dirais, ça a fait que j'ai fait le choix de rejoindre une association qui, en Pays Basque, s'est engagée pour défendre, proposer, revendiquer un autre modèle de société qui permette demain de sortir du capitalisme en construisant aujourd'hui des modes d'échange, des promotions de circuits courts en matière de consommation quotidienne avec l'agriculture, avec les services et la consommation de biens quotidiens nécessaires. Voilà, vous me pardonnerez, c'est un peu brouillon, mais c'est juste indigestif pour ensuite ouvrir la discussion. Merci. Merci.
C'est impossible de parler au nom de la communauté protestante tellement elle est diverse. Donc,
une voix.
Je commence à parler pour moi-même. Donc, moi j'ai noté pendant les interventions de ce matin qui m'ont beaucoup touchée. J'ai noté plusieurs mots. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mots, par des formations de métier. Donc moi, j'ai entendu dans les interventions les mots comme désir, vie heureuse, bonheur, prise de conscience, sens de la vie, l'homme vivant, l'homme rétabli, l'homme debout, sauver, garder, attention. Donc voilà, ce sont des mots qui me semblent très très importants. Donc moi je dirais qu'il y a trois défis. Trois défis pour introduire, parce que je pourrais parler pendant 3 heures. Donc je vais parler pendant 5 minutes. Les premiers défis, c'est les défis de sortie du royaume de la peur. Nous vivons dans la peur depuis très très longtemps. Il me semble que l'Évangile nous appelle à sortir de la peur. Et que la consommation répond à un désir de sortie de la peur. Et la question est pour moi plus, qui voulons-nous remplir quand nous nous remplissons d'objets? C'est la question à laquelle nous devons nous poser, parce que c'est souvent cette question qui est au cœur de nos désirs de consommer, de nous remplir des choses. Nous avons peur, nous pensons qu'en consommant, nous allons nous remplir et notre vie sera plus sûre. Donc, c'est de nous interroger. Nous interroger qu'est-ce qui nous fait peur. Pourquoi nous voulons consommer, nous remplir des choses. Et une fois qu'on a traversé notre peur, ça ne se fait pas facilement, peut-être les choses commencent à aller un peu plus différemment. Justement, là je repense à la parole de notre prêtre orthodoxe et je réponds à la question de la métanoïa étant comme pour moi plutôt faire descendre l'intelligence dans les cœurs, c'est-à-dire mettre l'intellect dans les cœurs signifie se transformer et chercher ce qui est essentiel. Et quand on cherche l'essentiel, on se rend compte qu'on a besoin de très peu. Et que justement, l'essentiel, c'est dans les dépouillements et pas dans les remplissages. Donc, premier défi. Deuxième défi, trouver un langage nouveau. Ou, autrement dit, un nouveau langage. C'est-à-dire, toute notre manière aujourd'hui de partager la vie, la foi, l'amour, est complètement dépassé, mais pour nous les humains, la parole est au cœur de notre vie et c'est elle qui nous met debout. Et je pense à cette parole du Christ, justement, au principe était le Verbe, quand on reprend l'évangile de Jean, je crois que c'est au principe était le Verbe, le Verbe était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Donc je pense que dans la question de la simplicité, c'est de revenir à cette parole, justement, qui est une parole libératrice, qui nous libère de cette peur que nous avons de consommer, de nous protéger des uns des autres. Et troisième point, pour être très bref, qui me semble très important, c'est les cheminements de sobriété, c'est un cheminement de vie. Et il faut pouvoir adhérer à la vie. C'est pas simple. C'est pas facile d'adhérer à la vie. On peut passer toute une vie dans la mort. Et c'est très difficile à véritablement vivre. Mais c'est pas impossible. Je pense que c'est les grands défis de nos humanités, justement, aujourd'hui, c'est de vivre. Et je repense à cette parole de Dieu. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Et à partir du moment où on adhère à la vie, on n'a plus besoin de lui chercher un sens, parce qu'on a déjà trouvé. Et quand on trouve, on n'a pas besoin de justement de combattre. On a tout simplement à vivre pleinement les uns avec les autres.
Et nourrir
Bien sûr, c'est un chemin.
chemin est aussi un chemin communautaire, et ça ne peut fonctionner qu'avec un chemin individuel. Et personnellement, il y a quelques jours, on a su des responsables de la finance qui nous disaient, quand vous avez une contravention de 45 euros, parce qu'ils trouvaient dans la communauté le poste contravention à augmenter, cela représente une année de scolarité d'un enfant à Kinshasa, dans une paroisse et une école. Et bien moi, maintenant, sur la route de l'ange, un peu droite, pendant que j'appuie sur le champignon, je me dis, attention, je ne prive pas un enfant de scolarité, puisque nous avons cette nationalité.
Une question qui a été posée là, et après on va peut-être reconfigurer la table, on va mettre les deux intervenants ensemble et puis vous restez quand même autour. Hein? Vas-y.
Je voudrais remercier.
Attends, il n'y a pas fini, il y a une question encore.
Ah bon, oui. Pardonnez-moi. Oui.
Alors il y a une question qui a été posée. Quand on vous dit qu'on n'a plus de nécessité de combattre, mais de vivre, comment s'écriraient les mots ouvriers de ce tout 1er mai s'ils n'avaient pas eu plus de 80 ans de lutte de ce monde ouvrier? Je vais être très honnête, je ne parle pas de ces combats-là. Il ne s'agit pas d'un combat plus de justice sociale. Il s'agit plutôt d'un combat intérieur. Il y a quelque part dans notre monde une espèce de formatage et aliénation où on croit qu'il faut toujours voir dans l'autre celui qui peut me nuire. Et nous sommes souvent, quand nous cheminons vers nous-mêmes, nous découvrons petit à petit que nous sommes imprégnés de cette idée que l'autre est un ennemi. Et c'est de ce combat-là que je parle. Et je pense, pour avoir vécu et pour vivre moi-même ces cheminements, que quand on se libère de cette peur, du coup, l'autre n'est plus notre ennemi, même celui qui est le plus différent de moi. Et je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à l'autre. Donc je ne me construis pas dans le regard de l'autre. Parce que souvent aussi la consommation, elle nous rassure parce qu'on veut montrer à l'autre qui on peut être meilleur, plus beau. Il y a souvent des questions d'apparence, des questions de montrer à l'autre ce qu'on veut se ressembler à l'autre. Mais quand on chemine vers nous-mêmes, on accepte ce que nous sommes de plus en plus et on n'a plus besoin justement de ces regards qui nous accusent, qui quelque part nous mesure. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais c'est véritablement, je peux développer plus, mais voilà. Mais en tout cas, je pense toujours que le combat social est un combat très important. Voilà.
Ne parlez pas trop près du micro, s'il vous plaît, parce que ça résonne beaucoup. Voilà. Bien.
Nous allons y venir en parler. Je peux vous assurer que notre presse aura lieu. La collecte a rapporté ce matin 1536
euros.
Bon, la table se reforme avec les deux intervenants secondaires.
Je précise, parce que c'est très important, que c'est une idée comme les autres, c'est-à-dire sous la rubrique individualisme. C'est vrai que le sujet aujourd'hui pouvait paraître plus original, mais c'est bien sûr le même sujet qui nous intéresse. Et si jamais dans les questions, d'actualité, notamment M. Serger, qui va être là aussi, mais
terrain, mais j'en ai plus.
Alors,
non, mais je vais l'acheter, mais moi
c'est... Voyons, par quoi commencer? Eh bien, peut-être par une question à Ivan. Ah oui, vous faites quelque chose de précis en ce moment. Vous disiez que vous avez partie d'une association. Et donc, quel est le nom de cette association?
Cette association s'appelle BIS, qui signifie vivre, donc faire un nom d'artiste.
Voilà. BIS. Alors, bon, je vais découvrir maintenant les questions avec vous. Est-ce que la vie en communauté, c'est peut-être pour vous, est-ce que la vie en communauté n'est pas un environnement privilégié pour vivre simplement et vivre bien? Et la question qui suit, c'est n'est-ce pas une solution à la crise?
Bon,
je vous laisse réfléchir. Je dis toutes les questions. Pourriez-vous évoquer... Ah, ça c'est pour le père de l'État de tout à l'heure. Pourriez-vous évoquer la figure de Séraphin de Sarov dans ses grandes lignes? Il a cité beaucoup de noms célèbres.
Je vais prendre les lignes.
Voilà, brièvement. Peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui le savent aussi. Est-ce que les problèmes de l'écologie ou de l'économie ne commencent pas par l'humain? En commençant par prier et agir pour que notre pays sorte de l'esprit de solitude et d'individualisme qui empêche d'être ensemble, agir et décider ensemble. C'est une question pour tout le monde. Croissance, décroissance. On a beaucoup parlé de la décroissance. Pas sur la terre, mais on en a parlé ces derniers mois. Croissance ou décroissance? Il y a un long terme, M. Fitoussi, hier au soir, à Radio Vatican, prône la croissance et avance comme argument que la décroissance et les politiques d'austérité, Grèce, Espagne, n'apporteront que plus de pauvreté. Que faut-il en penser? Croissance ou décroissance? Alors, nous avons eu un panel de discours fort intéressant et important. Nous sommes ici à l'Assemblée aujourd'hui du ministre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour combattre cette situation capable d'engloutir l'ordre et la création? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Oui, alors il a été entendu tout à l'heure dans le deuxième témoignage, faire descendre l'intelligence dans les cœurs. Alors après, je comprends pas la question. Hein? Quel est-il des pays du développement? mouvement, et puis en mettant en balance la sobriété imposée, et puis l'espérance. Bon, alors, comment commencer? Je partais peut-être à la question générale à laquelle tout le monde peut essayer de répondre, c'est-à-dire celle-ci. Est-ce que les problèmes de l'écologie et de l'économie ne commencent pas par l'humain? Voilà. Prier et agir pour notre pays sorte de l'esprit de solitude et d'individualisme qui empêche d'être ensemble et d'agir et de décider ensemble. Alors, qui veut prendre la parole?
Je sais pas, devant vous. Monseigneur me dit que le micro est devant moi, mais juste, je pense que c'est ce que nous avons dit. Il faut commencer par l'humain, c'est-à-dire par nous-mêmes. Oui, c'est d'abord nous qui devons nous transformer, avoir un autre regard sur les choses, et ça passe par la métanoïa, qui est effectivement faire descendre l'intelligence dans le cœur. Voilà, et donc, et qu'est-ce qu'on trouve dans le cœur, dans notre cœur? On trouve une présence. On trouve la présence du Christ, si c'est notre foi. Et à ce moment-là, tout notre travail, ce serait justement de faire grandir cette présence en nous du Christ, et pour, à l'instar de saint Paul, dire ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et à ce moment-là, on porterait un regard, un autre regard sur nos relations avec nos frères, un autre regard sur la croissance, un autre regard sur la création, etc., etc. C'est par nous-mêmes d'abord de commencer. Alors je laisse Monseigneur compléter largement.
Alors, je ne parle pas du tout de ça, compléter largement, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, enfin, on l'a dit tous les deux ce matin très, très fortement et très longuement. J'ajouterais peut-être ceci, c'est que de fait, il y a une conception de l'écologie qui est l'attention à la nature. Il y en a qui poussent ça même très loin. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont scandalisés quand on écrase une pâquerette. Enfin, je prends cette image pour comprendre ce que je veux dire en enfin, disant ça. Moi, je pense qu'il faut respecter les pâquerettes. Hein, c'est pas du tout ça la question dont je veux traiter. Mais il est évident que, au fond, si l'homme ne se sent pas touché personnellement, s'il ne rentre pas en lui-même, s'il n'y a pas cette conversion, on me permettrait de continuer à dire conversion, hein, si vous voulez, pour me distinguer de mes métalliens quand même. S'il n'y a pas cette conversion-là, et dans son regard sur lui-même, sur les autres et sur la nature, s'il n'y a pas cette conversion dans son rapport au bien, s'il n'y a pas cette conversion dans son rapport à Dieu, eh bien, la nature, en ce moment-là, les biens que Dieu a mis à notre disposition n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Il faut que lui-même se situe. D'abord, on a dit ce matin que l'homme a une place particulière. Donc, il a une responsabilité dans la création. Il est co-créateur avec Dieu. C'est une expression qu'on peut employer, mais ceci veut dire qu'il soit bien entré lui-même dans le projet de Dieu. Et ceci ne peut jamais se faire que sans conversion, sans référence au Christ, qui est la révélation du projet de Dieu pour les hommes. Ça ne peut pas se faire autrement s'il n'y a pas ce retour au Christ. Là. Et par conséquent, la prière est absolument un élément absolument indispensable. Si on ne change pas le monde simplement par la force de sa volonté, en tout cas nous chrétiens, c'est ce que nous disons. Je prends ça comme exemple, si vous voulez. Pax Christi a toujours, dès le début, a dit l'action doit s'appuyer sur la prière, elle doit avoir comme socle, comme base la prière, parce que la prière nous ramène à Dieu, nous met en phase avec le Christ, et à partir de ce moment-là, la rencontre du monde devient aussi découverte du de la présence du Christ. Au fond, il y a deux liens indissociables. C'est le lien à Dieu par la prière et c'est le lien au monde par l'amour. Et ces deux liens-là, ensemble, eh bien, nous font prendre davantage conscience de qui nous sommes et de ce qu'est notre mission dans le monde, et c'est ce qu'est en particulier notre mission par rapport à la transformation de ce monde et par rapport à la construction d'une vie bonne, ou d'une bonne vie, comme vous voulez.
Merci. Est-ce que les problèmes de l'écologie et de l'économie ne commencent pas par lui-même, ne commencent pas par prier? Est-ce que quelqu'un peut répondre, ajouter, préciser, objection?
C'est moi la question.
C'était si ça commence pas par la prière. Ah.
Bon, je veux bien être politiquement incorrect. C'est vrai que prier, c'est très important. Je ne sais pas que je vais l'apprendre. Néanmoins, prier en continuant à consommer de manière aussi outrancière qu'aujourd'hui, clairement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, moi, en tout cas, le message que je sors, c'est priorité au passage à l'action. C'est priorité à se réinterroger sur la manière dont on consomme aujourd'hui. Quand je vais au marché, c'est ce que j'achète. J'achète des haricots verts qui viennent du Kenya, qui ont transité par Rungis, qui sont arrivés en avion, ou j'achète chez le maraîcher du coin qui produit, et qui malheureusement aujourd'hui en Pays Basque ne permet pas, ne réussit pas finalement son travail. C'est ça la priorité. Alors, on accompagne ça de la prière, d'accord, pourquoi pas, je ne suis pas une commune de bénitier, je respecte. Mais la priorité, je suis désolé de vous dire, c'est l'action. C'est l'action. Bon, il y avait une question sur la. L'aspect scientifique, chrétien, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ce qu'on entend
beaucoup. La Bible,
il y a la Bible. Les scientifiques, ils disent que si on continue comme ça, si on continue comme ça,
je sais pas, on peut pas une Bible, mais.
On risque d'être chémérantaire, où les conditions de vie ne seront plus réunies pour permettre à tout le monde de vivre dans la démocratie, dans la paix et dans le respect des uns et des autres. La priorité est là.
Bon, je réagis. Et alors, politiquement incorrect, alors. Il ne s'agit pas, c'est mon point de vue, en tout cas c'est ma foi, il ne s'agit pas de faire, mais d'être. Bon, c'est facile. Le Christ nous rassure, et j'ai bien aimé notre sœur quand elle a parlé, et j'ai noté, et je me suis levé pour noter, parce que le Christ nous dit « n'ayez pas peur ». Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « n'ayez pas peur ». « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le prince du monde qui détruit la planète, qui détruit les hommes. Ma foi fait que le monde est vaincu. Il est vaincu. Le prince du monde est vaincu, pardon. Et le monde est sauvé. Une fois pour toutes, c'est fait. » Donc, ce que le Seigneur me demande à moi, c'est de me changer, moi, d'avoir un regard, de reconnaître mon péché, qui est un péché de surconsommation, etc., etc., bien sûr. Et je crois que tous vous trois qui avez partagé vos expériences, vous avez fait ce chemin de conversion. Mais le Christ ne nous invite pas à l'action. Il nous invite d'abord à cheminer avec lui et prendre petit à petit conscience que nous devons nous transformer. Le Christ, lorsqu'il commence son chemin sur terre, il est au bord du lac de Tibériade, au bord de la mer de Galilée, et il rencontre des pêcheurs. Et il dit, viens, suis-moi. Est-ce qu'il leur dit, viens, allez, on va transformer le monde? Non, viens, suis-moi. Et pendant toute la moitié de l'évangile, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses disciples, ses appreneurs qui sont derrière et qui apprennent avec lui les paroles du Seigneur. Et après, à un certain moment donné, au milieu de l'évangile, je prends l'évangile de Marc, là, je pense à celui-là, il en fait 12. Mais c'est seulement après un long cheminement avec le Seigneur, donc en ayant regardé au fond des yeux les gestes et avoir entendu les paroles du Seigneur, que petit à petit, le Seigneur peut en faire 12. Et après, il y a encore un moment. Et après seulement, il les envoie. Alors moi, pour l'instant, je suis qu'au bord de la mer de Galilée,
et j'essaye de suivre le Seigneur. Je ne suis pas encore à me dire, à être là, à dire, à être envoyé par le Seigneur. Je pense que toi, tu es envoyé, vous êtes envoyé peut-être pour faire. Moi, personnellement, je suis encore au stade de l'humilité de dire il faut avancer avec le Seigneur.
Ouais. Avançons
un petit peu.
Oui.
Ah,
c'est
le même.
Tu vas la peine de partager le micro.
Ah. Eh bien, c'est un peu difficile parce que. Parce que la question de la décroissance et de la simplicité volontaire est une question qui sort un peu des codes que nous connaissons, à mon sens. Donc, il y a toujours un paradoxe entre contemplation et action, et il y a toujours les défenseurs de l'un ou de l'autre qui vont dire c'est ça qui est mieux, ou c'est ça qu'il faut faire ou ne pas faire. Je suis arrivée à la simplicité dans ma vie parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée du trop. Il y a eu toute une fatigue de cet excès qui finalement m'a obligée quelque part à repenser ma vie. Et je crois qu'il y a aujourd'hui cette fatigue est très présente dans notre société. Il y a beaucoup de personnes très fatiguées de cet excès. Mais comme il y a une espèce de dépendance, nous sommes dans des sociétés dépendantes, donc comme une addiction, donc l'addiction elle nous pousse à toujours avoir des réflexes et on ne s'arrête jamais. Il y a ce phénomène-là qui est très très présent. La démarche de la simplicité volontaire n'est pas une démarche esthétique, n'est pas une démarche de se priver des biens matériels. C'est pas moi qui dis ça, c'est André Beauchamp qui a écrit un très beau texte sur la simplicité volontaire, un regard pragmatique. Et il dit justement qu'elle n'est pas une ascète, parce que l'ascète, il quitte le monde avec l'amour de quelque chose de plus grand. C'est ça qui fait l'ascète. L'adepte de la simplicité volontaire, lui, il recherche, il ne fait pas le plaisir ou la satisfaction, mais il cherche à s'épanouir pleinement. Mais l'amour qui ne peut y arriver par les droits qui lui offre la société de consommation. Je ne vais pas faire une critique de l'ascétisme, je crois que chacun chemine comme il peut. Et parfois, ça passe par justement se priver de certaines choses. C'est un cheminement d'obéissance, l'ascétisme, c'est un cheminement de travail sur soi très important, mais la simplicité volontaire n'est pas ça. Elle est bien autre chose. C'est justement une libération de l'avoir. Ça va au-delà de se priver parce que c'est un péché ou parce que c'est pas bon. Ça va au-delà de ça. C'est d'aller justement à ce qui est essentiel. Je ne sais pas si.
Non, je suis d'accord avec ce que vous dites là. Je pense que la simplification de vie, la simplicité ou la sobriété, ça dépend de ne pas savoir, mais c'est de ne pas posséder. C'est cette déposition de l'Église sur le bien matériel, sur l'argent, je crois que c'est un chemin pour chacun, quel qu'il soit.
Je voudrais simplement rajouter, parce que ça a déjà été dit d'une certaine manière, je crois que pour moi l'enjeu c'est ce que vous avez dit à l'instant, savoir ce dont il s'agit, c'est pas simplement de faire quelque chose, c'est pas simplement de se priver de quelque chose, ce dont il s'agit c'est de repenser sa vie, au fond de la repenser de telle manière qu'elle soit davantage en phase avec le projet de Dieu, qu'elle soit davantage en phase avec le monde dans lequel nous avons à vivre ce projet de Dieu. Repenser sa vie, c'est extrêmement important. Alors, si on veut prendre des conséquences concrètes, on a parlé de la décroissance, effectivement, on a parlé de moins consommer, on peut très bien faire cet effort volontaire de moins consommer, c'est une chose. Je pense qu'un homme qui a tant de volonté, il est capable d'enrayer ce mécanisme de l'hyperconsommation et de l'incitation à la consommation. Il est capable de le faire. Mais à mon avis, ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit. Il s'agit de savoir pourquoi on le fait. Qu'est-ce qu'on a en vue en faisant cela? Sauver le monde, on a vu Dieu d'entrer dans une vie bonne. Et cette vie bonne, ce n'est pas, elle n'est pas dans le moi, elle est dans l'autre chose, autre chose, n'est pas le monde, elle est dans l'autre. Elle est dans le fait de. Eh bien, savons, nous, on a un moment où on peut tous le faire, enfin, le vivre, ça. C'est le carême, je ne sais pas si on vit en réalité, mais enfin, on pourrait le faire. Jeûner, ce n'est pas simplement un acte privatif qui prive, je veux dire. Jeûner, c'est pour rencontrer davantage les autres, pour ne pas dépendre uniquement de nos biens, mais pour dépendre des autres aussi. Prier, c'est pas pour changer nos habitudes, prier, c'est pour être davantage en phase avec Dieu et avec nos frères humains. L'enjeu, c'est cette autre chose qui donne un sens nouveau à notre vie et qui nous permet d'aborder autrement la question du monde dans lequel nous sommes et la manière de, non seulement de nous situer, mais d'agir. Bien sûr, il y a toujours un moment où il s'agit d'agir. Mais ce n'est pas d'abord agir ou ensuite prier, c'est même pas, à la limite, je dirais presque, c'est même pas d'abord prier et après agir, d'ailleurs ce n'est pas ce que le Père a dit. La prière est au cœur, est au cœur de la vie, elle n'est pas la priorité de la vie, elle est au cœur de cette vie. Et si la prière est au cœur de cette vie, nous avons une petite chance d'agir de façon plus juste, plus équilibrée, plus aimante et plus respectueuse, de telle manière que nous aurons fait quelque chose en faveur du monde dans lequel nous sommes, ce qui est une démarche totalement écologique.
Alors après ce moment de grand alerte, les bases spirituelles de cette vie, de vie sombre, en même temps, les questions technique, mais là, on a parlé de croissance et de décroissance. Je préfère même que le capitalisme. Je voudrais dire deux questions. Croissance, décroissance, j'ai dit tout à l'heure. Donc, le tel proche de la croissance, et avance son argument que la décroissance est les politiques de société, pour quelques pays, l'Europe, le Canada, les autres, n'apporteront que plus de pauvreté. Sur la réforme de ce modèle de croissance qui est lié au capitalisme de l'homme. Donc, Gaël Giraud, jésuite, Cécile Renoir, socialiste, tous deux professeurs dans les grandes écoles, ont co-signé un document intitulé Peut-on réformer le capitalisme? Ils écrivent: toute notion de progrès ou de développement même durable est incompatible avec la survie de l'humanité. Si cela est fait, nous sommes plus de 1 milliard de chrétiens. Donc, quel message pour l'heure? En priant le gouvernement mondial, par exemple, comment nous donner cette initiative? Donc, l'action, mais je voudrais rester sur la première partie de la question. Croissance et modèle qui va avec ce que je vais faire. Je vais peut-être la finale de définir les mots, peut-être.
Je vais commencer. C'est extrêmement compliqué cette question. C'est un débat assez récurrent. Donc, aujourd'hui, on dit que s'il n'y a pas de croissance, les pays en difficulté ne peuvent pas survivre. Ce n'est pas possible. Enfin, on dit à propos de la Grèce, on dit maintenant à propos de l'Espagne, et on pourrait le dire certainement encore à propos d'autres pays. Et vous savez quand même nos candidats qui sont au cœur de ça. Sa démarche, enfin, c'est pas assez. La question, c'est de savoir de quoi on parle exactement. En fait. Il est évident que dans le système économique dans lequel nous sommes, économique et financier dans lequel nous sommes, à un niveau mondial, il est évident que sans sans croissance, un pays ne peut pas survivre, puisque la pauvreté augmente, donc il n'y a plus de consommation, donc il n'y a pas de toute façon pas de croissance. Là, on s'enfonce dans la dette, mais ça c'est des problèmes économiques pour lesquels je ne suis pas d'une compétence exceptionnelle de toute façon. Donc, c'est là-dessus que repose l'argumentation de ceux qui disent qu'il faut de la croissance. Alors, argumentation qui s'oppose à celle de ceux qui disent qu'il faut d'abord payer ses dettes, il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on a, et à ce moment-là, le pays sera sauvé. Mais à condition qu'il ait encore quelque chose, ce qui n'est pas absolument certain. Bon. Donc, mais moi, je voudrais prendre le problème à un autre niveau que celui-là. Ce matin, j'ai parlé un instant du sens qu'on donnait volontiers au développement durable. Le développement durable, pour les spécialistes de l'économie, pour les gens de l'économie, disons, des finances, pour les industriels, le développement durable, c'est quelque chose qui est fait, qui a un aménagement qui est prévu pour que ça continue à tourner, que la machine continue à tourner, et dans la mesure du possible, mais qu'elle continue à tourner, c'est-à-dire qu'elle avance toujours, peut-être à un rythme différent de celui qu'on a connu pendant les glorieuses de la consommation de l'hyper-industrialisation, mais que la machine continue à tourner. C'est leur unique souci, c'est celui-là. Alors après, est-ce que l'homme s'y retrouve ou pas, on peut réellement se poser la question. Alors, la question, pour moi, elle est, au fond, qu'est-ce qui peut faire que ça continue à tourner, en fait. C'est pas simplement qu'économiquement, on ait installé un système qui est correct, en tenant compte des nouvelles technologies, etc. Mais il faut que, socialement, on ait aussi mis en œuvre ce qu'il faut pour que chacun se retrouve, c'est-à-dire le partage, la solidarité, la justice dans la répartition des biens. S'il n'y a pas ça, eh bien, ça tournera pour les industriels jusqu'au jour où ça ne tournera plus, puisque il n'y aura plus personne derrière pour porter cette société et acheter. Et il faut une troisième condition pour que ça continue à tourner, c'est que le monde ne soit pas dégradé au point qu'on ne puisse plus y vivre. En fait, c'est pas ça, c'est la troisième condition. Il faut les trois ensemble, sinon ça ne risque pas de continuer à tourner. J'en tire deux conclusions. La première, c'est que, au fond, il ne suffit pas d'instaurer la décroissance, parce que il y a d'autres conditions qui sont en jeu. La décroissance, on reste encore dans le modèle économique. On ne sort pas de là, en fait. Il faut changer nos façons de vivre. C'est cela qui est en jeu. Nous, jusqu'ici, au fond, la société reposait sur le fait que chaque homme ait des désirs et qu'il puisse obtenir ce qu'il désire. Enfin, je simplifie ça un peu, mais en gros, c'est ça. Eh bien, aujourd'hui, on découvre, on prend conscience qu'il y a plus de chances que ce monde soit vivable si chaque homme a conscience de ce qu'il a comme besoin et puisse rejoindre les besoins qui sont les siens, que le monde lui offre cette possibilité de rejoindre les besoins qui sont les siens. Alors moi, je ne parle ni de décroissance, ni d'austérité, je parlerai de plus grande justesse dans l'évaluation de ce qu'il nous faut. Et plus grande justesse dans l'évaluation de ce qu'il nous faut nous conduit nécessairement à la sobriété, nécessairement, puisque nous sommes dans l'excès, donc ça nous conduit nécessairement à la sobriété, et cette sobriété sera heureuse dans la mesure où nous ne serons pas prisonniers de nos désirs, mais nous serons satisfait dans nos besoins. Voilà, un élément de réponse, mais bien sûr, un autre.
Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans un monde assez postmoderne et laïque, la religion plus que jamais actuelle, mais elle a changé de forme. Et je pense qu'il y a une religion qui a une grande puissance, c'est la croyance dans la croissance.
Nous vivons aujourd'hui, de manière générale, on croit vraiment, c'est de l'ordre de la foi. On pense qu'il faut vraiment sans croissance qu'on ne peut pas vivre. Et ça, c'est très grave, parce que justement, aucun argument rationnel peut aller à l'encontre de cette croyance qu'on peut voir de manière indéfinie dans une planète qui est finie. Ça, c'est déjà la base. C'est même pas la peine de rentrer dans les rangs de la planète qui est finie et on veut croître de manière infinie. Donc, il y a un paradoxe là, pour moi, qui est déjà de base. Ensuite, pour revenir à cette question, moi, je pense qu'interroger le sens nous pousse peut-être par moment à prôner des croissances ou je ne sais pas quoi, mais la question qui me semble importante pour moi dans ma vie, c'est la simplicité. Une simplicité volontaire, finalement, parce que c'est quelque chose qu'on choisit. On choisit d'être dans une simplicité parce que la simplicité, finalement, ça donne beaucoup plus de sens à la vie. Parce que quand on simplifie notre vie, on n'a pas tant besoin de choses que ça. Et donc c'est ce travail-là que je trouve qui est finalement très riche, qui nous donne la richesse. Là, pour le coup, on est vraiment riche, mais on est riche de bonheur, de partage, de choses. Et donc c'est opposer croissance et décroissance pour moi, c'est au fond être toujours dans une croyance, dans une illusion d'un monde qui est passé déjà. Donc si vous voulez, vous pouvez lire le Serge Latouche, par exemple, qui a écrit en tout cas sur les paroles de la décroissance, qui est là pour intervenir dans cette question. Mais je pense qu'en effet, il ne faut pas rester dans le débat croissance ou décroissance, il faut sortir de ces débats.
Alors vous voyez ici encore une fois, je donne la parole à la dame. Il y a des questions, c'est les mêmes, hein, croissance, croissance, et il y a des
questions. Michel. Je pourrais rajouter quelque chose.
Ah oui, oui.
Non, mais d'abord à lui, mais là-dessus, non, mais sur ce qui est en train de céder.
Ah, mais si c'est là-dessus,
oui, je voudrais rajouter. Je voudrais rajouter deux choses, souligner deux choses qui, à moi, me paraissent extrêmement importantes. La première, c'est cette idée de l'acceptation de la limite, enfin de la finitude du monde dans lequel nous vivons. Je crois que c'est une des clés, en réalité, de la bonne vie, de la bonne attitude. Accepter la finitude de notre monde, ce n'est pas se résigner à la finitude de notre monde, mais c'est accepter l'idée que notre monde a ses limites, enfin qu'il a des ressources qui ne sont pas inépuisables et indéfinies, et qu'il s'agit pour lui non seulement de suffire aux besoins des hommes d'aujourd'hui, mais aussi aux besoins des hommes de demain, de faire en sorte que les générations suivantes aient aussi de quoi vivre. En fait. Donc ça ne peut se faire que si nous sommes acquis à l'idée que ce monde est fini. Alors on peut, encore une fois, on peut se résigner à cela, mais il ne s'agit pas de se résigner, il s'agit de recevoir le monde comme il est. Enfin, c'est dans ce monde-là où nous sommes que nous avons à travailler, que nous avons à avancer, à nous enrichir. Mais nous ne le ferons bien que si nous sommes acquis à l'idée que ce monde-là n'est pas infini. Voilà. Et la deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est à propos de la simplicité. Je ne sais pas s'il faut parler nécessairement de simplicité volontaire. C'est la simplicité qui nous rend heureux. Bien sûr, la simplicité, ça doit se choisir parce que nous nous situons par rapport à un monde où on a jusqu'ici toujours fait choix de la sophistication, mais la simplicité, pour moi, ne s'oppose pas à la sophistication. La simplicité, c'est le véritable état de l'homme. Et là, je reviens au Christ un instant, si vous permettez. En fait, c'est pas, au fond, le Christ a révélé Dieu, il a révélé Dieu comme quelqu'un de fondamentalement simple. La bonté, l'amour, ce sont des notions qui ne sont compliquées que pour les hommes, mais qui ne sont pas compliquées pour Dieu. Alors, il faut, bien sûr, il faut désirer entrer dans la simplicité de vie, dans la simplicité des relations, il faut le désirer, mais si on le désire vraiment, ça ne devient plus, on y accédera vraiment que précisément si on se fond un peu plus dans alors là je parle en croyant en fait, que si on se fonde dans la manière dont le Christ s'est donné à nous et nous a révélé Dieu. Voilà ce que je voulais rajouter.
Merci. Donc, sauf que, mais je tiens à en tête, c'est qu'en France, on a à peu près
pas interdire à la Chine d'avoir autant de véhicules qu'en France. Pourquoi pas ne pas leur interdire une sorte de matériel français assez rapide avec les véhicules de la planète, c'est juste impossible. Voilà, donc ça pose quand même ce dépassement pour les sociétés qui vivent aujourd'hui et qui est important. Il y avait une question sur la politisation des valeurs de l'homme. J'avoue ne pas avoir bien compris. Je ne sais pas si quelqu'un peut préciser, je voudrais bien y répondre, mais je n'ai pas bien compris. Et je ne voudrais pas répondre à vous. Non.
Attends. Ça va peut-être revenir sur le texte de donc, dans le but du plan de 10 ans, et maintenant, plus précisément, c'est un marque qui a développé le dernier point qui était autour de la simplicité. Alors, ça rebondit. La vertu individuelle de vivre simplement n'est-elle pas un luxe spirituel offert aux pauvres hommes? Qui donnera de l'eau? Qui répartira la terre et les ressources? Les laïcs éclairent, ne doivent-ils pas agir auprès des dirigeants politiques et religieux pour que le royaume soit de ce monde avec sa justice? Une question. Ce matin, les conférenciers nous ont sensibilisés à des défis, comment vivre simplement pour vivre bien aujourd'hui et pour préparer le monde de demain. Il faut avoir une vision mondialisée de ce défi et concentrer les efforts économiques de 2 milliards de chrétiens, ça vous l'a dit tout à l'heure, mais ils ont surtout 2 milliards de chrétiens, face aux 15 milliards d'hommes, musulmans, judistes, taoïstes, émergents, etc., pour les amener par des débats, par la technologie, par nos convictions, à réduire la surconsommation et tous les appuis qui détruisent la création. Voilà. Alors, un petit peu, donc, la vertu individuelle, simplement, je vous dirais ça marche. Je ne sais pas.
Ça ne m'assure pas.
À mon père, non,
mais bon, j'ai commencé, puis d'autres continueront après, hein, c'est pas... La première chose que je voulais dire, c'est que pour moi, la meilleure répartition des ressources et du temps de travail, c'est pas de la décroissance, c'est au contraire une meilleure croissance. Ça conduit à une meilleure croissance. Parce qu'en fait, justement, un monde qui est bâti seulement sur la croissance de certains et pas sur la croissance des autres n'est pas un monde juste. Donc, c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est vrai que c'est facile de parler de simplicité quand on est nanti, ça c'est très... C'est au contraire. On invite ceux qui consomment trop à consommer moins pour se sentir mieux dans leur peau. Il y en a qui font même des cures pour tout ça, en fait, c'est pas donc... Ce concept de la simplicité n'est pas celui auquel dont nous parlons, j'ai l'impression, des uns et les autres. Hein, parce que, non, je crois que le concept de simplicité, ça doit nécessairement s'accorder avec celui de justice. Enfin, simplicité voulant dire vivre de manière plus vraie pour que d'autres aussi puissent vivre, en fait, c'est pas... Et ça, c'est quelque chose... On n'y est pas encore, c'est bien évident, mais c'est pas assez... Il me semble que nous devons, effectivement, et c'est ça pour moi l'effort que les chrétiens doivent faire, ce n'est pas faire la morale aux autres. Moi, j'estime ne pas avoir le droit de faire la morale à qui que ce soit, en fait, c'est pas personnellement. Mais d'abord, prêcher l'exemple, en fait, c'est-à-dire vivre avec plus de justesse. Et vivre avec plus de justesse, c'est nécessairement vivre plus simplement. Ensuite, c'est aussi vivre avec plus de justice. Vivre avec plus de justice entraîne nécessairement que de notre côté, nous sachions... remettre les choses d'aplomb dans la relation avec les autres. Ensuite, c'est aussi, me semble-t-il,
vivre avec plus de solidarité, et pas seulement de solidarité, parce que solidarité est un mot qui n'est pas réservé aux chrétiens, c'est-à-dire on n'a pas le monopole, on n'a pas le monopole de la solidarité, ça c'est absolument certain. Pour nous, il y a quelque chose qui dit encore un peu plus ce que nous devons être, à quoi le Christ nous invite, c'est la fraternité, la communion fraternelle, enfin, c'est fraternité au sens fort du terme, c'est pas fraternité comme ça, enfin, on partage les mêmes valeurs, non, fraternité au plus profond du terme, enfin, nous avons une vie en commun avec les autres et nous avons un point d'arrivée en commun avec les autres. Bon, pour moi, la simplicité, c'est ça. Donc, pas question de faire la morale, pas question de dire aux autres, voilà, comment vous devez vivre. Alors, comment faire pour que, malgré tout, on puisse toucher, combien vous avez dit, 2 milliards, je sais pas.
2 milliards.
Oui, c'est ça, oui. C'est nous, les quelques chrétiens qui sommes conscients de ça, comment nous allons faire pour toucher ces 2 milliards de personnes. Alors, je ne crois pas un instant que... À nous tout seuls, nous y arriverons. Déjà, c'est la première chose de l'histoire. Et nous, encore une fois, nous n'avons pas à faire la morale. Pour moi, il y a un problème de gouvernance mondiale. Je l'ai dit ce matin, en fait, c'est pas... Si... Comment ? Pardon ?
Le partage de la parole au Christ est bien.
Oui, mais je vais m'arrêter. Il y a un problème de gouvernance mondiale, voilà.
Je pense qu'on est dans une situation de crise parce qu'il y a un changement de civilisation. Nous savons ce que nous avons connu et je crois que nous avons là quelque chose que nous ne connaissons pas et nous sentons bien que les choses doivent bouger, les choses doivent changer. Et tout à l'heure, le modèle occidental, eh bien, il a créé cette croissance selon le papier. Ce qui est tant mieux, c'est que les pays en développement ont compris qu'ils ne l'aient pas d'une certaine manière parce que c'est pas possible. Et en même temps, je pense que le seul modèle aussi, c'est copier ce qu'on a fait. Or, nous, on se rend compte que c'est impossible de vivre maintenant et de continuer comme ça. Et qu'est-ce qui... Personne, je crois, n'a vraiment une solution. Croissance et croissance, pour dire autrement, partager le travail. Oui, partager le travail, partager le revenu. Il y a quelque chose à construire. Et si chacun de nous, par le milliard de chrétiens, le milliard d'hommes de bonne volonté, ne se rend pas compte de cela, je crois qu'on n'avancera pas et que dans 5 ans, on n'en sera même pas. Parce que la solution, elle n'est pas entre les mains d'une personne ou d'un petit groupe, elle est entre les mains de tous. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes tous responsables. Et les chrétiens, je pense, ont à s'engager. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans la vie communautaire qu'on n'est pas engagé dans ce changement.
Merci. Alors, il y a peut-être à tous dans ton débat des exemples concrets. Dans de dire qu'il y a des manières différentes de vivre, bon, on a des exemples concrets à l'instant. Mais on a évoqué par exemple, ici, il va me dire, il y a des choses à dire, peut-être sur la manière de vivre Noël, les cadeaux de Noël, je crois, soit on a des choses comme ça, avec Noël autrement, etc. Tout un tas de pistes qui sans révolutionner le monde entier,
une manière
de vivre, de prendre conscience
de
notre manière de vivre.
Voilà. Alors, quelques secondes. Oui, j'étais très content de vous dire que j'ai entendu cette parole. Nous ne sommes pas en train de faire travail. Non, je pense qu'il y a parmi beaucoup de parents, ou en tout cas certainement de grands-parents, qui ont été forcément parents à un moment donné, qui le sont toujours. Moi, je veux que vous commencez à figer en période de Noël, mais aussi en période d'anniversaire, et je vois peut-être 3 ans, je sais ce que c'est les anniversaires quand on est invité chez les uns et les autres, et où il y a une espèce de course au cadeau. et où en fait l'objet prime bien plus que le geste. Et j'en parle un peu facilement, c'est un peu une guerre avec mon épouse, parce que moi j'aurais tendance à vouloir privilégier le geste. Elle me renvoie à l'image d'un projet. Voilà. Je m'explique en deux mots. Privilégier le geste, dans mon esprit, c'est quoi privilégier le geste? C'est qu'un enfant qui, dans sa chambre, a fait tort de jouer, puisse faire le choix d'un jouet qui lui dit peut-être moins sur leur politique, d'être plaisir, mais qui prennent ce jouet-là, ce livre-là, ce disque-là, et l'offre à son camarade lors de son anniversaire, en simplement mettant une petite bafouille en disant voilà, je t'offre ce livre que j'ai eu plaisir à lire, j'espère qu'il te plaira autant qu'il m'a plu. Et là, on remet au cœur du dispositif l'échange, le geste, et là, vous comprendrez aisément que dans une société de post-croissance, ce simple geste, il est complètement gratuit. Il est complètement gratuit. Pour autant, il a probablement plus de valeur que n'importe quel cadeau manufacturé, je ne veux pas taper sur la Chine, mais en Chine, on va dire. Voilà, c'est le premier petit exemple. Et deuxième exemple que je m'applique à moi-même, c'est aussi dans les déplacements quotidiens. C'est comment est-ce qu'on essaye de plus barre de limiter ces déplacements. Et lorsqu'on a besoin de se déplacer, comment est-ce qu'on peut le faire autrement, si c'est possible, que de manière motorisée? Donc ça peut être l'utilisation de la marche à pied, du vélo, ou alors si on veut le faire de manière motorisée, c'est justement, comme vous avez dit, le faire pour vivre ici, à plusieurs dans une automobile. Voilà, j'en arrête avec deux exemples concrets, mais simplement que vous puissiez vous partir de là, mais en disant, tiens, ça vous laisse le temps de préparer Noël, c'est pas possible. Voilà.
Et avec mon mari, nous avons réalisé cette maison entièrement.
appuyer sur mes réseaux parce que finalement j'étais à cette époque des notes d'une association de décroissance. Et voilà, et vous savez, l'expérience est très très riche. Mais j'aime beaucoup, bon, les exemples, je pense qu'on peut donner beaucoup, mais j'aime pas trop mettre en avant ce qu'on peut faire, parce que je trouve que ça n'a pas de sens justement. Parce que c'est pas la seule fait, encore une fois, on peut manger bio et tester son voisin, et ça sert à rien. Et je pense que c'est encore une fois, c'est pas dans ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Nous devenons, nous sommes des êtres dans des pays. Et c'est très bien de marcher à pied, c'est très bien de s'appeler, moi je m'appelle à la rue, j'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Moi je pense que le plus important c'est cette joie intérieure. J'insiste sur cette joie intérieure parce qu'il y a Pierre Rabhi, qui est quelqu'un que j'avais énormément en France, qui raconte des histoires de la forêt qui est à feu et qui dit que tous les oiseaux, tous les animaux partent en courant, sont désespérés. Et il y a un petit colibri qui essaye de prendre l'eau et d'éteindre le feu, et avec son maître. Et tous les animaux le font mal, ils disent, mais t'es fou, tu vas te brûler, ça ne sert à rien. Et lui, il dit, je fais ma part. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que je pense qu'au-delà de ce qu'il nous faisons, arrêtons de penser le faire juste pour le faire. Mais soyons nous-mêmes porteurs d'espérance de vie. Et c'est vachement mieux, moi je trouve.
Merci. Alors, je crois qu'il y avait une autre question que je voulais ajouter. Beaucoup vont porter sur ce qu'on peut faire ensemble. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience que ces questions-là intéressent les communautés chrétiennes, nos églises respectives, catholiques, réformées et orthodoxes, quand on parle ce matin de la position des années 80 du patriarche de Dios. Et puis, quand on veut continuer, il y a une fibre, sauvegarde de la réaction assez vive. Mais si je repars, j'avais une oublié simplement les lettres de chapitre, le deuxième chapitre de ce petit ouvrage s'intitule Agir en chrétien pour la nation, quelques propositions. Il y en a neuf. Je lis simplement les lettres de chapitre, ça peut donner envie de les faire ce qui est aussi dit, en sachant que c'est simplement l'instantané de la réflexion. Les relations et les gens pourront aller en sanctifiant. Premièrement, il s'agit de muscles et des effets de France, sans se faire prêts pour entendre les propositions. Développer une théologie et une catéchèse de la création. Deuxièmement, développer des formations. Développer les formations en se basant sur des mouvements qui ont peut-être davantage d'avance et sont cités ici en particulier le soufisme et le NHC. Troisièmement, célébrer Dieu qui a l'œuvre et c'est dans ce contexte qu'on a donné la proposition de Sidiou 2007 de toutes les églises réunies en Roumanie en disant que la seule réponse est d'instaurer une fête de la création. Dans le thème de la sobriété heureuse et autour de la tête de Saint-François d'Assise. Quatrièmement, une résolution au long cours, s'informer sur les questions environnementales, s'informer. Cinquièmement, organiser des relations avec les acteurs de l'environnement. Association de jeunes agriculteurs paysans, tout le monde connaît, je pense, qui permettent
ces domaines de la vie quotidienne qui ne portent pas conscience, ça ne va pas réinventer le monde, pas, mais ça change beaucoup de choses. Ensuite, les bâtiments, par exemple, ce sont des installations de zèle, des bâtiments diocésains, de vitesse, etc. Donc, faire place à des techniques qui permettent une faible consommation d'énergie. La donne écologique doit être appelée de manière décisive, plus au prix de quelques sacrifices économiques et patrimoniaux, dans les options retenues pour le prix de ces équipements, isolation des bâtiments, choix des techniques de chauffage, etc., blanchiment du métal, donc les repartir des sacs. Et l'un des modèles, donc c'était l'écho de la communauté du chemin vert ce soir, l'expérience qu'on incite des villes économiques, sociales, spirituelles et environnementales. Autrement dit, les modèles de société devraient se mettre en valeur comme mode de vie alternatif. Puis, huitièmement, inciter les chrétiens à s'engager dans la construction d'un développement durable. Bon, on a entendu une réflexion ce matin, quand l'emploi de ce mot durable est souvent associé au modèle de l'économie et de croissance, si j'ai bien compris. Alors, il y a aussi une phrase du Calvary de Albert Jacquard. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité. Enfin, je crois que c'est un bon résumé de tout ce qu'on a entendu ce matin. Et dernièrement, proposer à la réflexion des chrétiens, une part en l'église sur les questions d'écologie et d'environnement. Yeah.